Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans la JT du local. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 8 décembre et au menu de cette émission aujourd'hui, l'arrivée d'un tigre au refuge de l'Arche. Enfin, il est arrivé hier soir et là tranquillement il va prendre ses marques justement. On a assisté à son arrivée hier soir, il a eu le temps de se réveiller aujourd'hui et va rencontrer une autre tigresse du refuge de l'Arche, Perle, pour justement recréer en tout cas ce couple de tigres au refuge de l'Arche. On va rester à Château-Gontier pour parler du centre d'art contemporain à la chapelle du Genteil alors vous le savez, effectivement, propose des expositions, ça c'est toute la partie visible, la partie à laquelle vous avez accès, mais aussi propose beaucoup de livres d'artistes, de books, mais d'énormes livres justement. Et là on va parler aussi de cette partie-là très importante pour les artistes et pour le monde de l'art en général. Et puis on retrouvera un mercredi sur deux, vous le savez, on retrouve Soizic avec sa chronique Un autre écho de l'écho, donc Soizic qu'on retrouvera plutôt en fin d'émission. Tout à l'heure. Mais d'abord, on fait un point sur l'actualité avec ce grave accident qui a eu lieu tôt ce matin à Château-Gontier. Vers 5h30, une voiture et une moto se sont percutées au lieu-dit Les Étangs sur la départementale 28, route de Sablé-sur-Sarthe. Les deux conducteurs des véhicules, malheureusement, sont décédés. Ils étaient âgés de 26 et 31 ans. Les pompiers ont été nombreux mobilisés sur place toute la matinée et la circulation a repris seulement depuis 11h ce matin. Les visites suspendues dans les hôpitaux de Château-Gontier. Le centre hospitalier du Haut-Anjou n'autorise plus ni des visiteurs ni des accompagnants dans ses services, sauf les fins de vie et les papas à la maternité. Dans les EHPAD, en revanche, pas de limitation des visites avec passe sanitaire et masque. En revanche, l'hôpital Saint-Julien ne prévoit pas de déprogrammation en chirurgie pour l'instant, mais une unité Covid va progressivement être déployé. Stop aux seringues de soins jetées dans les poubelles. L'entreprise Séché Environnement tire la sonnette d'alarme depuis le début de l'année. Elle constate une recrudescence de ces aiguilles de soins retrouvées parmi les déchets ménagers, ce qui oblige les opérateurs de tri accidentellement piqués à vérifier qu'ils n'ont pas été contaminés par une maladie infectieuse. Une campagne de sensibilisation va être lancée dans les prochains jours en Mayenne. Et puis retour à la normale pour les habitants de Changé privés d'électricité. Ils étaient 1500 foyers concernés hier par cette coupure d'électricité à partir de 15h30, en cause deux câbles souterrains de 20 000 volts qui ont été arrachés lors de travaux menés par une entreprise selon Enedis. Le courant a été rétabli dans la soirée peu après 20h, Enedis qui compte porter plainte contre cette entreprise. L'inclusion scolaire au menu d'une réunion publique ce midi, organisée par le syndicat FNEC-FO53 d'ici 1h à 13h30. À Laval, avec des échanges et des témoignages au programme, le syndicat qui se dit contre une inclusion systématique et indifférenciée des élèves en situation de handicap. Selon Force Ouvrière, plus de 100 élèves n'ont pas l'accompagnement auquel ils auraient droit. Joël Ballandreau, qui intègre le bureau de l'AMF, engagé auprès de David Linard, le maire d'Evouin est devenu depuis hier secrétaire général adjoint de l'Association des maires de France. Joël Ballandreau s'est dit très honoré d'intégrer cette équipe renouvelée. Après le temps de l'élection, voici venu le temps de l'action. Fin de citation. Et puis je vous en parlais il y a quelques petites minutes, évidemment, cette arrivée d'un tigre hier au refuge de l'Arche à Château-Gontier, qui a donc traversé la France. Lui était en meilleure forme que moi. Il a traversé la France, il était très fatigué, il disait, mais effectivement, il s'est réveillé aujourd'hui et il va être mis en contact avec la tigresse Perle du refuge de l'Arche. Mais on va revenir un petit peu sur l'histoire de ce tigre, racontée par Anthony du refuge Tonga Terre d'Accueil, situé à Saint-Martin-de-la-Plaine, près de Saint-Étienne, qui connaît très bien puisque le refuge l'a accueilli dès tout bébé.
On l'a reçu, il n'était pas encore sevré. Donc on l'a accueilli, on l'a élevé à la main. Donc on doit lui donner le biberon plusieurs fois par jour. Il ne mange pas encore de la viande. Donc on était ses parents pendant plusieurs mois jusqu'à le sevrage complet. Aujourd'hui, oui, c'est un tigre adulte. Il a la forme d'un adulte, entre 150 et 200 kilos, on dirait. On ne l'a pas pesé, mais à vue d'œil. Du coup, il a 3 ans. On l'a reçu il y a presque 3 ans, il y avait quelques mois. C'est un tigre très affectueux, comme il a été élevé à la main, il cherchait très souvent le contact de l'homme. Les soigneurs étaient ses parents, sa famille. Il était très connu et très populaire au sein de l'équipe du parc. Donc à son départ ce matin, il a eu beaucoup de salutations de départ. avec les larmes aux yeux. C'est un départ assez touchant.
Oui. Et oui, départ assez touchant de ce tigre qui est donc arrivé, je le répète, hier soir au refuge de l'Arche à Château-Gontier et qui donc désormais devrait vivre ici puisque ce n'était qu'un refuge de transition, au refuge Tongataire d'accueil. Mais pourquoi justement arrive-t-il au refuge de l'Arche finalement? Question posée à Hugues Lemercier, le directeur du refuge.
Nous avions la place de le faire, nous avons eu la chance grâce à la fondation Brigitte Bardot d'avoir des bâtiments qui nous permettent d'accueillir jusqu'à 4 félins. Tonga Terre d'Accueil est un refuge, mais plutôt un refuge vraiment de transit qui permet de résoudre des situations d'urgence et puis après de permettre aussi des situations de placement beaucoup plus durables. Et nous sommes une des solutions de placement durable. Ça veut dire que la vie de ce tigre ici, il devrait passer toute sa vie, normalement, au refuge de l'Arche. Et l'idée, c'est d'essayer de le faire vivre avec une femelle que nous avons déjà ici, que les visiteurs du refuge connaissent bien, qui s'appelle Perle, une femelle qui a 16 ans, et une femelle qu'il connaît déjà, puisque Perle a passé plus d'un an, à peu près un an, à Tonga, terre d'accueil, à un moment où il était difficile pour nous de la conserver ici, parce qu'elle vivait déjà avec un autre tigre. Ce tigre était très vieillissant, et les comportements d'agression entre les deux étaient assez importants. Donc on avait fait le choix et Tonga avait pu accueillir cette femelle Perle pendant un an. Donc il y a déjà eu des mises en contact qui ont été faites et c'est ce que nous allons essayer de poursuivre à partir de demain. Qui vont être dans deux loges différentes, mais deux loges qui ont une grille en commun et donc ils vont pouvoir se sentir, ils vont pouvoir presque se toucher s'ils le souhaitent. Et là on va pouvoir observer les comportements, s'il y a des comportements d'agression, des comportements de soumission, etc. Une fois qu'on estimera qu'il y a suffisamment de comportements qui permettent de déterminer qu'on peut les mettre en contact ensemble, on ouvrira cette grille coulissante et les animaux pourront être mis en contact physique et ça ira de pair avec le fait de pouvoir ouvrir l'espace qui est devant, qui est un espace de presque 1200 mètres carrés.
Espace dans lequel on peut trouver plusieurs constructions en bois allant certaines jusqu'à 5 mètres de hauteur pour permettre cette position dominante que recherchent les tigres. La mise en contact pourrait prendre, donc à commencer ce matin seulement, pourrait prendre 2 jours jusqu'à 3 semaines, ça dépend des animaux. En tout cas, les deux tigres resteront ensemble, ça c'est sûr, vous pourrez les voir lors de votre visite au refuge de l'Arche. Et sans doute découvrir à ce moment-là le nom, le prénom attribué à ce tigre, puisque pour le moment, on ne le connaît pas encore. On fait une petite pause en musique avec Deluxe, No Stress, et on revient juste après pour évoquer toutes les activités du Centre d'art contemporain à Château-Gontier.
My nana draws a rabbit, flip the classical boob lap, share piece to rest the magic for the rating daily. I feel laugh after laugh, take a token, run your paper. How's that in your ears? I put my back into it, put my front into it, put my freak into it, pull a tweak into it, just keep wiggling it every dot that day. By the way.
Belle ambiance qu'on puisse créer, c'est quand y a les chiffres de la boisson sucrée. Kier, étant l'adepte du no stress, accepte que par notre musique on y accède. Quand le monde s'écroule, zen attitude, jette la chemise, que le show continue. En cas de laisser aller, on te pourchasse. Tu seras belle, même si t'as de la moustache. Tu voulais pas le sourire, on a le truc. Pour adoucir la vie, il faut plus d'une astuce. Des coccinelles tirent ma diligence. Sans dire adieu, je me tire d'urgence. Avec de luxe, y'a de l'amour. Je suis avec ma guitare en bas de la tour.
Run them all.
valise. Ah, pas de fuite. Écoute ça.
Espèce d'enfoiré.
C'était évidemment Oxmo Puccino sur ce featuring avec Deluxe, No Stress. C'est ce que vous écoutez dans l'agité du local sur l'autre radio. Et puis effectivement, on va faire ce petit point autour du Centre d'art contemporain à Château-Gontier. Avec, vous le savez peut-être, sans doute, peut-être l'avez-vous vu aussi, puisque 2000 personnes ont vu cette exposition de Makiko Furuichi dans la Furuichi. Alors je suis désolée si j'écorche son nom, à la chapelle du Gentei. L'expo vient de se terminer il y a quelques jours. Il y en aura une prochaine en janvier, bien sûr. Mais ça, ce n'est que la face émergée de l'iceberg, puisque ce centre d'art contemporain s'occupe aussi, et surtout peut-être même d'ailleurs, du soutien aux artistes plasticiens. Et on va voir de quelle manière, avec le responsable du centre d'art contemporain de Château-Gontier.
Donc Bertrand Godot, je suis le directeur de la programmation art contemporain du Carré, voilà, et notamment la chapelle du Genetail.
Peut-être rappeler justement que des centres d'art contemporain, il n'y en a pas si souvent, c'est pas si fréquent, il n'y en a pas d'autres en Mayenne, et il y en a seulement un autre dans les Pays de la Loire.
Oui, voilà, donc le centre d'art de Château-Gontier du Carré est labellisé CASIN, donc Centre d'art contemporain international, comme le Grand Café à Saint-Nazaire. Voilà, il y a à peu près 30 lieux comme ça en France qui ont obtenu ce label en 2018-2019. Hein, il y a aussi Brest, Rennes, Tours. Voilà, dans le périmètre de la région. Voilà, autrement, en Normandie, il n'y a rien de spécifique. Et donc, le Grand Café à Saint-Nazaire. Enfin, deux pour les Pays de la Loire, en fait. Voilà. Donc, c'est un label qui est obtenu. Donc, c'est forcément lié à la programmation, bien sûr. Les budgets, l'équipe, la fréquentation des publics. Voilà, tout ça qui fait que, en fait, on peut obtenir ce label d'envergure nationale qui n'existait pas pour les arts plastiques. Alors contrairement au spectacle vivant où il y a un certain nombre de labels comme scène nationale, théâtre missionné, centre culturel, scène conventionnée, centre de danse nationale, etc. Voilà. Donc, le chapelet des labels art plastique entre guillemets est beaucoup plus pauvre.
Ce label, ici, vous l'avez obtenu depuis 3 ans maintenant. Ça se voit forcément par le grand public avec les expositions qui sont proposées à la chapelle du Gentei, mais aussi par un soutien aux artistes, donc là, qui est beaucoup moins visible. Là aussi, de publication de livres, en fait, pour présenter les productions des artistes. Comment on peut présenter ça et quel est l'intérêt? Qu'est-ce que ça représente?
L'intérêt, il est multiple. Hein. C'est, pour moi, c'est aussi important que l'exposition. C'est un autre temps, en fait, c'est le livre. Hein. Donc, le livre, on est chez soi, on l'ouvre, on regarde, il y a des textes, des images. C'est pas le même temps de rapport à l'œuvre. Et c'est surtout que ça permet d'avoir une vision très, très longue sur le travail d'un artiste et reposer comme ça. Voilà. Et puis, c'est un travail d'archive, c'est un travail pour les étudiants, pour les universités, pour les chercheurs, pour les professionnels, c'est un outil indispensable. C'est aussi un outil de mémoire, hein, parce que les expositions passent, mais on sait bien que tout ça n'a pas d'archives visibles, hein, et souvent on tombe vite tous dans l'oubli. Donc c'est un travail qui est important quand on recherche, moi-même, quand je recherche sur des artistes des années 70, là, c'est parfois très difficile. Voilà. Et donc, le Carré a cette particularité d'avoir continué avoir un projet éditorial pour chaque exposition et pour chaque artiste. Voilà. Donc on recherche des partenaires financiers et des partenaires aussi professionnels comme les éditeurs, diffuseurs, critiques d'art, graphistes, etc. Et le plus important, trouver de l'argent pour faire un catalogue digne de ce nom-là. Voilà.
C'est ce qui est le plus difficile, en tout cas au début, j'imagine. Maintenant, vous avez peut-être l'habitude de travailler avec certains partenaires, mais c'est cette recherche justement de partenaires financiers pour forcément la confection de ces ouvrages.
C'est une mise en confiance auprès de partenaires, surtout financiers d'ailleurs, hein. Que ce soit parfois la région des Pays de la Loire ou le CNAP à Paris, la DAGP. Voilà, c'est tous des gens qui ont maintenant vu plusieurs fois ce qu'on était capable de produire et de mettre en place en termes d'édition. Et voilà, il y a une espèce d'accord tacite, j'ai envie de dire, dans les jurys qui décident de nous soutenir, hein, puisque le résultat est là. Donc on accompagne vraiment sur un vrai travail de publication diffusée. Parce que c'est pas le tout d'éditer, mais il faut aussi diffuser pour que ça soit visible.
Alors comment ça se passe très concrètement? C'est-à-dire que vous savez peut-être, je ne sais pas, un an et demi à l'avance, quel artiste vous allez recevoir ici à Château-Gontier. Et là, vous prévoyez déjà à quoi va ressembler ce livre de présentation. L'artiste vous donne aussi ce qu'il a envie forcément de mettre dedans, j'imagine. Comment ça fonctionne?
C'est au moins 2 ans à l'avance. Donc déjà l'artiste qui a été choisi pour être exposé à la chapelle. Et puis s'il y a un besoin d'édition, justement, s'il y a un besoin éditorial, parfois les artistes ont déjà des catalogues, mais déjà un peu vieux et un peu dépassés. Hein. Donc là, oui, on réfléchit, entre guillemets, si la partie est jouable de se lancer dans une recherche de financement et d'accompagnement du projet. Voilà. C'est un peu suivant où l'artiste en est aussi dans sa carrière. Si c'est un jeune artiste, on fait plutôt des livres d'artistes qui sont plutôt des objets vraiment propres à l'exposition, plutôt que des catalogues monographiques où c'est là l'inventaire de toute une vie. Souvent, parfois, comme on va le faire pour Daniel Nadeau, pour l'exposition qui aura lieu l'automne prochain au musée de Château-Gontier, puisque c'est 80 ans de carrière, de travail, hein, d'artiste. Artiste qui vit dans le nord du département. Voilà, et donc il y aura l'exposition au musée de Château-Gontier à l'automne 2022 et après l'hiver 2023 à la BNF à Paris, la Bibliothèque Nationale de France. Voilà. Et là, oui, c'est un gros, gros, gros projet qui est en route depuis 2 ans. Temps de trouver l'argent, la conception, la réalisation, les gens qui écrivent, les deadlines de remise de texte, de traducteur, de conception graphique, la deadline de l'imprimeur, le bon à tirer pour que tout ça soit bien fait et que ça plaise à tout le monde. Voilà, le temps est très très long.
Vous parliez de la diffusion, justement, c'est diffusé où en fait? Qu'est-ce qu'il en est fait de ce livre-là?
Alors les éditeurs ont des maisons de diffusion, donc c'est-à-dire que c'est envoyé dans les librairies principales qui s'intéressent à ce genre d'ouvrage. Hein. Et donc, c'est mis en vente dans les librairies françaises. Et puis, il y a la commande. Après, il y a la diffusion entre les lieux professionnels hein, qui se fait tout naturellement. La diffusion toute naturelle de l'artiste aussi auprès de ses rencontres. Voilà. Et puis, on a aussi des demandes d'écoles d'art, de FRAC, d'institutions, de publics privé individuel aussi, hein, voilà. Ce qui fait que les stocks, on part sur un minimum généralement de 500 exemplaires édités, imprimés, c'est entre 500 et 800. Voilà, et puis il y a toujours un peu de réserve parce qu'il suffit que l'artiste ait une actualité dans 5 ans avec une grosse exposition, et ben on peut nous demander X catalogue, voilà. Et c'est toujours bien d'avoir des réserves. Voilà.
On peut aussi peut-être s'avancer un petit peu dans le temps. Là, il y a une exposition qui vient de se terminer. Il y en a une qui va commencer très bientôt au mois de janvier avec Pierre Ardouvin qui exposera ici. Ça s'appelle « Prouve que tu existes ». À quoi pourront s'attendre les visiteurs justement de cette exposition?
Alors Pierre, c'est un artiste français déjà connu et reconnu un petit peu. Hein, Et là, c'est une production nouvelle hein, avec cet artiste qui a la particularité toujours d'utiliser des objets de notre quotidien qu'il réintroduit, qu'il réutilise, qu'il donne une nouvelle vie, entre guillemets. et pour produire un nouveau message entre guillemets, hein. Donc là, même le titre de l'exposition prouve que tu existes, c'est le titre d'une chanson connue. Donc voilà, il recycle entre guillemets aussi bien son monde, notre monde d'ailleurs, dans une certaine forme de nostalgie, de d'objets qu'on a côtoyés dans notre enfance, ou de chansons, de mélodies qu'on a entendues, voilà. Donc à partir de tout ça, il recrée un monde, voilà, qui est très beau, voilà, qui est à découvrir donc à partir du 22 janvier, parce que bon, je sais l'objet, comment que ça va être produit, cette exposition, mais elle n'a pas encore de réalité, elle est juste encore sur des plans, en fait, pour l'instant. Voilà. Tout l'ensemble, ouais. Certaines pièces sont déjà produites, mais la grosse pièce la plus importante n'est pas encore fabriquée. Voilà.
Il y aura aussi cette découverte, cette surprise pour vous aussi, finalement.
Ouais, pure découverte, ouais. Puis c'est l'objet même des centres d'art contemporains, c'est d'accompagner les artistes en permettant de réaliser de la production, hein, production avec des honoraires et de la technologie du savoir-faire pour mettre en place des pièces importantes dans un espace important aussi. Ce qui donne la particularité d'ailleurs du Centre d'art de Château-Gontier dans cette chapelle. C'est l'espace qui est très grand. Et avec le temps, je suis vachement content de l'aspect religieux du site aussi, en fait. Spiritualité que ça peut apporter. Ça fait plus de 20 ans que je suis là maintenant. Et parfois, les artistes au début, les chapelles, nanana. Et bon, déjà, il y a l'aspect grandiose du lieu, esthétique, etc. Mais aussi ce que ces lieux-là transportent avec le temps, je trouve quand même. En fait, c'est bien de donner une nouvelle vie à un lieu comme ça pour des expositions. Parce que, en fait, les lieux de culte comme ça, leur architecture, ça correspond à une époque et ça avance. Et là, de confronter cette architecture avec des créations contemporaines, des préoccupations contemporaines. Je trouve que le balancement entre le XIIe siècle de cette chapelle et des questions du XXIe, tout ça ensemble, ça donne de la perspective un peu plus joyeuse que celle qu'on vit en ce moment.
Donc, à découvrir cette nouvelle exposition à partir du 22 janvier, on aura l'occasion d'en reparler, plusieurs rendez-vous de médiation à retrouver. Et puis, un autre rendez-vous donc, qui n'a pas de rapport avec cette exposition, mais un rendez-vous que peut-être certains auditeurs connaissent bien, c'est le retour des conférences, qui à chaque fois mettent sur un thème en particulier. Et là, rapport avec l'actualité ou pas, le thème, ce sera les masques.
Oui, voilà, donc c'est Eva Proutot hein, qui, depuis un certain nombre d'années, maintenant assure des conférences avec des thématiques régulièrement. Et celle-ci, ce sera le 13 janvier, donc prochain 2022, avec comme titre « Lever les masques ». Donc là, on ne sait pas si on va vraiment pouvoir les lever, mais donc voilà, ça vient de cette idée du masque dans l'histoire de l'art aussi. Donc cette appropriation un peu comme ça, avec cette réalité qu'on vit maintenant, là, de porter des masques à longueur de temps, voilà. Oui, Eva Proutot, elle est conférencière, critique d'art, historienne. Elle est aussi présidente de la revue 303, de revue des Pays de la Loire, d'architecture, patrimoine. Et, voilà, donc elle est très forte en transmission de l'histoire de l'art, des objets. Elle est très curieuse sur... et c'est très bien parce que c'est une conférence savante, mais écoutable, entre guillemets. Enfin, je veux dire, elle arrive à réunir à la fois quelque chose de sérieux et documenté, et à la fois, on ne s'ennuie pas, en fait. Voilà, donc ça reste très abordable. Et puis, elle va sur plein de champs, donc c'est comme un cabinet de curiosité à chaque fois. Donc, elle essaye toujours de recoller les choses avec la vie telle qu'elle était dans le sujet dont elle parle, quoi. Voilà.
Et pour assister à cette conférence, vous pourrez donc réserver évidemment auprès du Carré juste avant, on le rappelle, cette conférence qui a lieu le 13 janvier prochain. Petite pause avec The Arcs Velvet Ditch et on revient juste après pour la chronique Un autre écho de l'écho. We'll be right back. Sparks, Velvet Ditch, oui, c'est bien, on a toutes les syllabes dans l'ordre. C'est ce que vous venez d'entendre dans l'agité du local, toujours à l'écoute de l'autre radio. Et on retrouve avec plaisir Soizic pour sa chronique Un autre écho de l'écho. Bonjour Soizic.
Bonjour Marie.
Et on va parler aujourd'hui alors d'une phrase que vous avez certainement déjà entendue, vous aussi un peu partout, le niveau de l'école baisse. Alors est-ce que c'est vrai? Eh bien on va en parler justement dans cette chronique.
Eh bien, on va découvrir ça ensemble. Alors, la semaine dernière, un scandale a éclaté dans l'université de Sud-Bretagne. Figurez-vous que dans un courriel interne, c'est important, adressé à ses collègues, un maître de conférence en économie et gestion a sorti la sulfateuse en qualifiant son auditorat, je cite, « d'en partie quasi débile ». Scandale à l'université de Brest. Le professeur ne devait pas dire ça. Insultes, opprobre et menaces en tout genre sur les réseaux sociaux. Soit. Mais en dehors de la forme, certes inappropriée, se pose quand même la question du fond. Le niveau scolaire de nos enfants baisse-t-il réellement? Eh bien, je suis désolée de vous le dire, mais aujourd'hui, plus aucun doute ne subsiste. La réponse est malheureusement sans équivoque, oui, le niveau baisse. Toutes les études convergent. Et cela en prenant pourtant toutes les précautions d'usage liées aux études comparatives, évidemment, parce que c'est toujours délicat de comparer l'école d'aujourd'hui à celle d'il y a 20, 30 ou 40 ans. Alors pourquoi? Parce que d'une part, la société a changé. Et en 1947, rendez-vous compte, seuls 3% des élèves atteignaient le bac. Aujourd'hui, ils sont 66%. Évidemment, ça pose question. Et puis, les études se basent systématiquement sur des dictées ou des exercices mathématiques d'il y a 10 ou 20 ans, et ça ne correspond plus forcément aux enseignements d'aujourd'hui. Et puis également, les critères d'évaluation sont devenus bien plus exigeants. Alors qu'il y a 50 ans, il suffisait de lire un texte à haute voix pour être considéré comme lecteur, il faut désormais pouvoir l'aborder silencieusement et en comprendre le sens. Alors qu'en est-il? Eh bien, prenons le test réalisé par le mouvement « Sauver les lettres » qui évalue tous les 4 ans plus de 1000 élèves de seconde sur une dictée et de la grammaire du brevet des collèges des années 70 ou 80. En 2000, seulement, j'ose dire, à peine 30% des copies avaient eu zéro, contre 60% en 2008. Après 8 années de scolarité, un élève sur deux ne reconnaît pas un complément d'objet direct et près de la moitié d'entre eux sont incapables de transposer une phrase du singulier au pluriel.
Mais sois-y qu'on peut espérer que ce soit mieux en mathématiques?
Malheureusement, non. Les résultats de l'enquête TIMSS réalisée en mai 2019 sur un échantillon, là encore, de plus de 4000 élèves de CM1 et autant de 4e. Classe, tenez-vous bien, la France et la Roumanie au dernier rang des pays de l'Union européenne et à l'avant-dernier rang des pays de l'OCDE, juste devant le Chili. Le score des 4e semble être désormais celui des 5e de 1995. Et on peut poursuivre avec l'histoire géographie, si vous le souhaitez. En 6 ans, la part des élèves de très faible niveau en histoire géographie est passée de 15 à 20%. Alors que pendant ce temps-là, celle des meilleurs a aussi diminué de moitié.
Mais alors, à qui la faute?
Eh bien, les explications sont variées. Alors, on peut se dire qu'en ce qui concerne l'école primaire, actuellement, la tentation de l'éducation nationale est de se disperser, n'assigne de plus en plus d'objectifs, et en parallèle, le temps scolaire a diminué, avec notamment la semaine de 4 jours. Et au final, ça pose un vrai problème. L'autre souci majeur de notre système éducatif, c'est la faiblesse de son pilotage. On fait des réformes, on change les programmes, mais on n'évalue jamais. Notre système de notation aussi et notre obsession du classement n'améliorent pas les choses. Les élèves aujourd'hui travaillent uniquement pour une note et non plus pour le plaisir d'apprendre. Ils ont une vision strictement utilitariste et consumériste de l'école. Alors évidemment, pour d'autres, ce sont les enseignants qui sont responsables de la débâcle. Formation insuffisante, manque de motivation, non-remplacement en cas d'absence et difficulté à attirer les enseignants expérimentés dans les établissements difficiles. Et vous comprenez bien que ce ne sont pas les salaires proposés qui vont attirer les meilleurs candidats. Enfin, le contenu des enseignements a lui aussi sa part de responsabilité. La baisse régulière du nombre d'heures de français et de mathématiques au profit d'autres disciplines oblige les enseignants à revoir leurs exigences à la baisse et les programmes sont tellement denses que les professeurs n'ont d'autre choix que de survoler certaines notions. Alors ajoutons à cela la reproduction des inégalités sociales dont la France est championne, et le tableau de l'éducation en France est quand même un peu démoralisant. Le sentiment que le niveau baisse n'est donc au final pas un sentiment. Le sentiment que le plus beau métier du monde perd de son sens n'est pas non plus qu'un sentiment. Nombre de professeurs sont d'ailleurs découragés, d'où l'explosion des démissions depuis quelques années. Marie, dans élève, il y a élevé. C'est ce qu'un professeur doit faire de ses élèves. Les élever. Toujours plus haut, normalement. De moins en moins haut dans les faits. Ça fait 30 ans que les enseignants tirent le signal d'alarme, sans être entendus. Alors au rythme où vont les choses, après la catastrophe de la santé publique, celle de l'éducation risque bien d'être la prochaine, malheureusement.
Merci beaucoup, Soizic. Que rajouter à cette conclusion ?
Je suis désolée, ça n'est pas vraiment un cadeau de Noël, mais c'est un triste état des lieux.
C'est ça, c'est-à-dire pas très joyeux, mais ça donne en tout cas beaucoup à réfléchir. Merci beaucoup.
Soyons des lanceurs d'alerte.
Effectivement, et ça de toute façon, ça se vérifie, on le voit dans les témoignages, effectivement, qu'il y a beaucoup de désistements aussi dans l'éducation nationale. Une chronique que vous pourrez réécouter sur notre nouveau site. Et nouveau site, on en avait déjà un, évidemment, bien sûr, on n'a pas un nouveau site en 2021.
Et très beau
site. Mais un site, voilà, tout beau, tout neuf, toujours sur l'autreradio.fr. C'est la fin de notre émission L'Agité du local pour ce mercredi. À suivre ce soir à l'antenne à 19h, il y aura Novorama. Ce sera suivi un petit peu plus tard à 21h de Déclectic Jazz. Et quant à moi, évidemment, on se retrouve demain à 12h15. Je vous souhaite une très bonne journée.